France Inter.
Bonsoir à tous. La butte finale sur le Tour de France. Montmartre fait danser le peloton pour son retour à Paris. Après une arrivée à Nice l'an dernier, étape finale inédite. Au sommet, glissante aussi, des milliers de spectateurs agglutinés depuis parfois 8 heures. Nous serons en direct sur place avec eux. Le suspense côté sportif est déjà levé, vous l'entendrez. À la une également de la farine mélangée à du sang, le témoignage d'un Gazaoui après les premières livraisons de denrées aujourd'hui dans l'enclave palestinienne. L'actualité, c'est encore le coup de pression des Américains sur l'Europe. Il n'y aura pas de délai supplémentaire si aucun accord sur les droits de douane n'est trouvé. Le traumatisme des habitants de l'Aude après l'incendie qui a parcouru 630 hectares. Le Français Maxime Grousset comme un poisson dans l'eau aux mondiaux de natation à Singapour. Et le Festival d'Avignon se termine ce soir avec une fréquentation qu'on n'avait pas connue depuis 10 ans. La météo Magali Rochereau demain, encore des pluies à l'est, une accalmie à l'ouest.
Oui Fabien, et toujours beaucoup de vent autour du golfe du Lion et des températures sous les normales de saison.
Prévision en détail à la fin de ce journal.
France Inter.
Après les galets de la prom à Nice l'an dernier, les pavés de Montmartre pour ce point final inédit du Tour de France Hommes en ce moment, c'est dire le monde ce soir, rue Lepic où vous vous trouvez pour Inter à Paris. Bonsoir Grégoire Motte.
Bonsoir.
Folle ambiance sur la butte où vous avez vu passer le peloton déjà une première fois.
Tout à fait, le peloton est passé une première fois il y a une dizaine de minutes. Moi, je me trouve tout en haut de la butte, tout en haut de la rue Lepic, au croisement avec la rue Norvin, juste avant la place du Tertre. Et c'est la pluie qui a refait son apparition depuis quelques minutes. Alors, je vous rassure, ça n'entame pas du tout l'enthousiasme des spectateurs. D'ailleurs, je suis avec Aubin, qui a sur la tête son magnifique bob des JO Paris 2024. Aubin, vous étiez là l'année dernière.
Exactement.
Et est-ce que vous retrouvez un petit peu la même ambiance qu'on a pu vivre l'été dernier?
Pas qu'un petit peu, on est là, il y a du monde et il y a juste la pluie qui fait son apparition versus le soleil l'année dernière. Bon écoute, l'année dernière c'était 12 sur 10, cette année c'est 10 sur 10, hein, c'est pas mal.
Ok, et oui Didier, pardon, oui, donc retour sur la rue Lepic, toujours une bonne idée pour le spectacle.
À fond, c'est exceptionnel de pouvoir voir les coureurs en plein effort, dans la montée, on se régale.
Ok, et on entend à l'instant des cris qui s'élèvent du bas de la rue, donc les coureurs qui sont peut-être en train de remonter, en tout cas tous les visages sont braqués vers le bas de la rue et on attend... les coureurs d'ici encore quelques minutes.
Et on entend l'ambiance derrière vous, Grégoire Motte avec Fabien Gosset dans cette montée de la butte Montmartre, empruntée au total 3 fois par les cyclistes ce soir. Une pente à presque 6% sur plus d'un kilomètre et ses pavés accidentogènes dont se seraient passés les meilleurs, même le maillot jaune. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
Tadej Pogacar déjà assuré de remporter le tour, même si l'étape pluvieuse n'est pas terminée.
Oui, mais là, on ne court plus pour le maillot jaune. Les temps ont été gelés, justement, à cause des conditions météo. Tadej Pogacar sera bel et bien en jaune ce soir et décrochera facilement un quatrième Tour de France. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la victoire d'étape. Et Tadej Pogacar la veut, cette étape sur les Champs-Élysées. Il est actuellement dans un groupe de 27 coureurs en tête avec 35 secondes d'avance sur le reste du peloton. Tadej Pogacar, c'est clair, va jouer la victoire d'étape. Mais attention, il risque d'y avoir de l'ambiance dans la butte Montmartre, parce que figure également dans ce groupe de tête un certain Julien Alaphilippe, un certain Kevin Vauclin ou encore eh bien, un certain Valentin Paré-Pinte qui s'est imposé cette semaine du côté du Mont Ventoux.
Fanny Lechevestrier sur l'arrivée sur les Champs-Élysées, merci à vous, alors que les critiques contre Tadej Pogacar ont émaillé cette 112e édition soupçonnée de dopage. Christian Prudhomme n'est pas surpris par sa domination, parce que c'est un champion au biberon, il a été fort tout suite, indique le patron du Tour chez nos confrères de France Info, qui comprend les doutes, la suspicion, vu le passé du cyclisme. Chez les femmes, la deuxième étape du Tour entre Brest et Quimper a été remportée aujourd'hui par la Mauricienne Kimberley Lecourte. La Française Pauline Ferrand-Prévot est troisième au classement général. Des foules de Palestiniens marchant dans le sable au milieu des ruines, portant sur leur dos des sacs de farine. Les premières livraisons de denrées par le ciel et par camion à Gaza aujourd'hui. Un tiers de la population n'a pas mangé depuis des jours d'après l'ONU et il faut 62 000 tonnes de denrées par mois pour nourrir l'enclave. On en est loin ce soir. Surtout, les distributions sont parfois très compliquées. Témoignage très fort de Youssef, journaliste gazaoui. Il est l'une des rares voix francophones sur place.
C'est la jungle maintenant. Tout le monde veut vivre, tout le monde veut manger. Les prix sont horribles. Comment ça, un oignon, ça coûte 30 euros, un oignon? Les largages d'hier, il y avait 11 blessés aussi. Tu prends un sac de farine, il y a des gens armés qui viennent te braquer, t'agresser, qui tu dis laisse-le. Il faut faire un planning pour distribuer les aides humanitaires à tous les Gazaouis. Envoyer des messages, des SMS. Comment ça, tu lances 20 boîtes ou bien 20 packs pour 1 million? C'est n'importe quoi, là. De donner à 5%, il y a 95% qui attend. Vraiment, c'est la farine mélangée avec le sang.
Et l'on vous retrouve. Bonsoir, Michel Paul.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
En direct de Jérusalem, on l'entend avec le témoignage de Youssef. Michel, le ravitaillement est chaotique.
Oui, pas efficace et même potentiellement dangereux, tout le monde le reconnaît, mais très spectaculaire et surtout symbolique. Les largages aériens se poursuivent en tout cas sur la bande de Gaza, mais à petite dose. Cet après-midi, ce sont deux avions de l'armée de l'air jordanienne et un appareil émirati qui ont parachuté quelques 25 tonnes d'aide humanitaire. Et cela fait suite au largage nocturne effectué pour la première fois par l'aviation israélienne, des médicaments, de la farine, du sucre et des conserves, et aussi de la nourriture pour enfants. Mais Fabien, la masse de l'aide humanitaire est acheminée depuis ce matin par voie terrestre via plusieurs couloirs humanitaires, des convois de l'ONU en provenance d'Égypte et d'Israël, avec désormais des pauses humanitaires tactiques qui, promet à Israël, seront quotidiennes de 10h à 20h en heure locale dans les zones où ne se déroule pas de combat. Il y a d'autres projets aussi, le raccordement au réseau électrique d'une usine de dessalement de l'eau de mer dans le sud de l'enclave palestinienne, et également la construction d'un pipeline émirati pour convoyer de l'eau potable depuis l'Égypte vers Gaza.
Et à la veille d'une conférence des Nations Unies autour de la question du désarmement du Hamas, Michel, le Premier ministre israélien fustige une fois de plus l'ONU.
Oui, vous le savez, Israël continue à affirmer qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Benjamin Netanyahou, lors d'une visite dans une base aérienne, accuse les Nations Unies de propager des excuses et des mensonges sur l'acheminement de l'aide humanitaire. Il y a, dit-il, des convois sécurisés. Ils ont toujours existé, mais aujourd'hui, c'est officiel, il n'y aura plus d'excuses. Et pour tenter de préserver ce qui reste de sa coalition gouvernementale, eh bien, il affirme que son pays permet l'entrée à Gaza d'une aide humanitaire essentielle, tout en poursuivant les négociations pour libérer les otages. Et comme toujours, il conclut, nous continuerons à nous battre jusqu'à la victoire totale.
Michel Paul, RFI pour France Inter. La réunion à l'ONU demain et mardi, sous l'égide notamment de la France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot promet qu'à cette occasion, d'autres pays européens confirmeront leur intention de reconnaître l'État de Palestine. La situation à Gaza, au cœur d'un échange entre la chanteuse Zaoud Sagazan et le président français. Zaoud Sagazan a invité dans un post Instagram Emmanuel Macron à ne plus utiliser un de ses morceaux autant qu'il laisse faire, je cite, un massacre à Gaza. Je partage votre exigence, la situation s'aggrave, ce que nous faisons collectivement ne suffit pas, a répondu tout à l'heure Emmanuel Macron sur le réseau X. France Inter, 19h08, les États-Unis n'abaisseront pas leurs droits de douane sur les produits européens à moins de 15%. Donald Trump prévient avant son entretien avec la présidente de la Commission européenne, entretien pour trouver un accord à la dernière minute. Bonsoir Ajra Mohamad.
Bonsoir Fabien.
Correspondant de France Inter à Washington. Avant ce rendez-vous, Donald Trump assurait à Ajra qu'il y avait une chance sur deux que l'accord soit conclu.
Oui, c'est une belle journée en Écosse, a déclaré devant les journalistes Donald Trump avant le début de cette réunion. Elle le sera encore plus si un accord est conclu. Mais il y a quelques petits problèmes à régler, reconnaît le président américain.
Nous aurons un plaisir à échanger et voir ce que nous pouvons faire. Au fil des ans, nos relations ont été bonnes, mais très injustes envers les États-Unis. Et je crois que nous voulons, les deux parties, rétablir la situation.
Assise à ses côtés, un peu crispée, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, lui répond.
Je m'attends donc avec intérêt aux échanges que nous allons pouvoir avoir. C'est vrai. Je sais que vous êtes un négociateur exigeant. Oui, mais juste. Juste, c'est vrai aussi. En tout cas, si nous réussissons, je crois que ce sera le plus gros accord que l'un et l'autre aura jamais réussi à avoir.
La négociation s'annonce un peu musclée. On le sent bien, les Européens tentent d'éviter une guerre commerciale et pourraient se contenter, d'après plusieurs sources, d'un accord autour d'une taxe de 15% sur leurs produits importés aux États-Unis. Interrogé sur ce chiffre, Donald Trump dit qu'il n'ira pas sous cette barre des 15%, c'est sûr. Mais est-ce qu'il ira au-delà? C'est toute la question. Lui qui a menacé d'imposer des droits de douane de 30% à l'UE, faute d'accord conclu d'ici le 1er août, date sur laquelle je ne reviendrai pas, prévient-il.
Ajra Mohammad à Washington pour Inter. Et maintenant, Donald Trump s'entretient en privé en ce moment avec la présidente de la Commission européenne. Le président américain a la manœuvre pour un cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge. Donald Trump refuse de revenir à la table des négociations des droits de douane tant que les affrontements entre les deux pays n'auront pas cessé. Selon Bangkok, des discussions auront lieu demain pour la première fois entre la Thaïlande et le Cambodge en Malaisie. Les affrontements depuis 4 jours ont fait plus de 30 morts et 200 000 blessés. Face à tous les conflits mondiaux, le gouvernement en France dévoile le nouveau visage de la journée défense et citoyenneté. Fini les diaporamas et les quiz. Ce sera dès septembre une immersion dans la journée d'un militaire, de la levée des couleurs à l'initiation au tir sportif laser. Un grave retour en arrière et une banalisation de la guerre dénonce ce soir l'UNEF, Union Nationale des Étudiants de France. Un incendie progressant à la vitesse d'un cheval au galop, attisé par des vents tourbillonnants. Feu fixé ce soir dans l'Aude, 630 hectares parcourus sur le littoral méditerranéen autour de Sigean. Paysage de désolation laissé par les flammes, tapis de cendres soulevés par le vent, arbres calcinés et esprits traumatisés. À l'image de cet homme qui a appelé les secours, Marc Bertrand, il reste marqué par la rapidité de progression de l'incendie.
Théo l'affirme, hein, il a eu la peur de sa vie. Le jeune homme de 24 ans avait invité sa famille et ses amis sur le champ de son père pour un barbecue. Quand il a vu les fumées, à 150 mètres à peine.
On avait organisé un banquet avec 80 personnes et on a vu des flammes arriver à une vitesse. Le départ de feu a été côté autoroute et avec les 60 km/h de vent. C'est un mur de flammes qui avance, comme une armée de flammes qui avance face à vous, quoi. C'était l'enfer. Ça court dans tous les sens, ça panique. C'est impressionnant.
Théo est gendarme. Il prend les choses en main pour évacuer tous les convives dans le calme. Mais il y a 40 voitures, un seul chemin de terre. C'est un cauchemar.
Les premières voitures ont réussi à sortir. Le seul chemin qui mène au champ a été coupé par les flammes, donc j'ai fait faire marche arrière à tout le monde et on a abandonné les voitures sur le terrain et on est parti en courant à l'opposé du feu, quoi.
Ce soir, il ne reste rien du terrain, un coin de paradis que lui avait légué son défunt père.
C'est un héritage qui a une valeur énorme à mes yeux parce que ben voilà, c'est, je vous dis, c'est les derniers moments qu'a passé mon père, c'était à ce terrain. Il a passé énormément d'heures parce qu'il a construit un barbecue en pierre magnifique, un gros bar, le cabanon avec parce qu'à la base il y avait des poules magnifiques aussi. C'est parti.
Même les deux chèvres qui entretenaient le terrain ont péri dans l'incendie.
Et on ne connaît pas encore l'origine du feu. Attention, demain, tout le pourtour méditerranéen, à l'exception des Alpes-Maritimes, sera en alerte incendie. Venons-en aux mondiaux de natation à Singapour et à cette belle performance française. Maxime Grousset, qualifié en finale du 50 mètres papillon, le Néo-Calédonien a tout simplement réalisé la meilleure performance mondiale de l'année avec un chrono de 22 secondes 61. Un dixième d'avance sur ses poursuivants. Le voilà bien parti pour décrocher le titre demain.
On est des gosses, on est content d'améliorer nos chronos. Le fait d'être premier, c'est cool aussi. J'ai fait exactement la même course que ce matin, sauf que j'ai essayé d'accélérer les deux derniers coups de bras. Ça a gagné un petit peu, mais je pense qu'il y a encore un peu mieux à faire. Bah, ça promet rien, en vrai. Je peux rien vous promettre. C'est une finale, tout le monde peut sortir quelque chose. Je pense qu'ils se sont tous donnés à fond parce que c'est vrai que ça a nagé assez fort sur la première demi-finale. L'envie, c'est de gagner. Tout simplement, je vais pas dire ouais, j'ai envie de faire troisième ou quatrième, ou enfin je. Moi, l'envie, c'est gagner.
Et rendez-vous demain, Maxime Grousset, avec Jérôme Val, alors que des cas de gastro-entérite aiguë gâchent la fête aux mondiaux. Deux Américains contraints d'être forfaits lors des séries ce matin. Rideau enfin sur le festival d'Avignon. Les affiches vont disparaître des murs. Les comédiens ne vont plus aborder dans les ruelles les visiteurs pour leur proposer des spectacles. Dernière journée aujourd'hui. Il y a autant de fatigue chez les compagnies que de nostalgie chez les Avignonnais.
Les rues se vident, les affiches tombent et tout ça. Cette atmosphère-là, on a envie de baigner un mois de plus, avoir le temps d'aller voir des spectacles.
On est cuit parce que nous, en plus, on a eu des dates en extérieur pendant le festival. On joue déjà deux fois par jour. On va pouvoir dormir le matin éventuellement, donc ça, c'est bien. Un petit peu soulagé, mais il y a une petite tristesse aussi.
Ça va faire tout drôle. Pendant un mois, on a été habitué à ce que la ville soit festive. Un petit peu contente que ça se finisse parce que c'est un mois un peu intense aussi. Donc ça va être au repos, surtout.
Disons que je suis contente de pouvoir rentrer chez moi, mais contente que ça ait eu lieu. Et un mois, c'est pas si long. C'est un mois pour rencontrer des gens, montrer son travail, profiter, jouer tous les jours, se perfectionner. Donc c'était plaisant.
Et repos après l'effervescence, la fréquentation du Festival d'Avignon n'avait plus atteint un tel niveau depuis 10 ans. L'an prochain, la Corée sera à l'honneur, langue invitée pour l'édition 2026.